Jacques Viguier, bonjour. Cinéma, cinéma. Deux ou trois choses à savoir sur le cinéma. Bienvenue à toutes et à tous sur Esprit Occitanie. Première émission sur le cinéma. J'ai pris un sujet que tout le monde peut connaître, c'est Chaplin. Donc Chaplin, quelques remarques sur quelques passages de sa vie. Au départ, bien sûr, l'enfance. Enfance misérable, puisqu'il naît en avril 1899. Son père est alcoolique, sa mère entre en asile psychiatrique, donc ce n'est pas terrible. Il commence à jouer dans des compagnies et petit à petit, il arrive à se faire connaître. Et sa carrière va connaître une extension dans les années 1910. Donc, il est recruté par la Keystone Company en 1913 jusqu'en 1914 avec un salaire de $250. Ensuite, c'est la Essney où il va rester encore 2 ans. Et là, il passe à $500. Puis, la Mutuelle, et là, on monte à $2000. Et puis finalement, le sommet, c'est quand il passe à la First National, où il va gagner $20,000, je précise, hebdomadaire. Vous savez que les Américains, ce n'est pas par mois, c'est par semaine. Donc, il a, à ce moment-là, fait ses fameux films, Charlot Policeman, Charlot s'évade, Charlot, etc., etc. Donc, certains pensent que ce sont des courts-métrages. En réalité, ce sont les longs-métrages de l'époque. Ils durent ce qu'on appelle 2 bobines, c'est-à-dire 10 minutes 2 fois, et donc ça fait 20 minutes. Ce sont des films qu'il va faire à peu près chacun en 1 mois, donc c'est quand même assez rapide, et il va obtenir donc à la fin des années 10, à un âge donc qui n'est pas canonique, 29-30 ans, une réussite absolue, et il sera vraiment très riche, ce qui lui permettra de financer d'autres films que certains n'auraient pas tourné et que certains ont critiqué Chaplin d'avoir tourné. Donc voilà, je dirais, pour cette question du cinéma muet et de cette évolution, en sachant aussi qu'à l'époque, il y avait des cinéastes qui pouvaient tourner pendant 2h, 2h30 des films, comme Griffiths, qui avait fait Naissance d'une nation discutable, et Intolérance, qui était au contraire à voir. Passons à un deuxième temps, qui est Les temps modernes. Donc Les temps modernes, c'est un film dont on peut dire qu'il ne frôle pas à la perfection, il est parfait. Et d'ailleurs, on emmène les enfants des écoles encore aujourd'hui voir Les temps modernes, parce que c'est absolument extraordinaire. Cette charge contre le capitalisme, ces scènes amusantes autour de la chaîne, tout ça, c'est vraiment parfait, parfait, parfait. Et il y a ce film qui est tourné en 1936, et il est encore muet. C'est là que Chaplin va montrer qu'il rejette le muet, il ne voulait pas du muet. Le premier film muet, vous le savez peut-être, c'est Le chanteur de jazz. Et le chanteur de jazz, on peut résumer l'intrigue, d'ailleurs, vous allez voir, ce n'est pas très politiquement correct, c'est un juif qui chante à la synagogue, mais qui veut chanter des variétés. Donc, on le lui refuse. Pour ça, donc, il va se déguiser. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait du blackface. Donc, c'est un juif qui fait du blackface. Aujourd'hui, je ne sais pas si ça passerait parfaitement. Donc, ce cinéma parlant arrive, et Chaplin dit « Non, je ne veux pas ». Et d'autres vont résister. En France, par exemple, il y a une querelle Marcel Pagnol-René Clair. Marcel Pagnol dit « Vive le parlant » et René Clair dit « Non, je rejette le parlant parce qu'il va tout bloquer au niveau du déplacement de la caméra. » Et on le voit d'ailleurs, vous avez la meilleure comédie musicale qui existe au monde, c'est « Chantons sous la pluie » qui est une leçon sur le passage du muet au parlant. Donc, Les temps modernes, il a intégré un certain nombre d'éléments qui lui paraissent fondamentaux. Cette dimension sociale, au début, je vous rappelle le début, ce sont des brebis blanches et puis on voit tout à coup une brebis noire. Donc déjà, c'est le symbole, il sera la brebis noire. Et dans sa manière de rejeter le parlant, cela signifie qu'il y a quelques moments où la caméra et le son vont être synchronisés. Notamment, par exemple, il va fumer dans les toilettes et on a une image du patron qui lui dit « Ah non, il faut dégager ». Il y a des moments où, dans une salle d'attente, il y a des borborygmes qui apparaissent auprès de certains personnages. Et donc, on a au maximum ce rejet du parlant. Alors, il y a une scène qui est vraiment le symbole de ce rejet. C'est la fin du film. Charlot est dans un restaurant. Il doit chanter. Donc, il est dans la cuisine avec sa fiancée. Comme il a peur d'oublier les paroles, il les note sur ses manchettes. À ce moment-là, il faut savoir qu'il n'y a pas de chemise comme aujourd'hui. Il y a des chemises avec un col qui est écarté, qui est extérieur, et des manchettes qui sont aussi écartées. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, quand il se met à chanter, alors qu'il a intégré ses paroles sur les manchettes, il ouvre grand les bras et les manchettes partent. Et à ce moment-là, il est vraiment gêné et sa fiancée lui fait signe de chanter comme il peut. Et alors, il se met à chanter, donc on dirait aujourd'hui un yaourt, et il raconte une histoire en faisant des mimes, et on comprend à peu près de quoi il s'agit. Et c'est vraiment une ironie absolue sur le rejet de ce parlant qui lui casse les pieds. Donc, ce rejet absolu s'est manifesté à travers les temps modernes. Et dans les temps modernes, nous avons plusieurs scènes à retenir, mais une scène qui serait celle-là, avec cette musique qui apparaît ici et que l'on pourrait peut-être écouter. Autre film important, un chef-d'œuvre, Le Dictateur. Alors, Le Dictateur, il faut apporter quelques précisions sur le moment où il a été réalisé. Il a été réalisé en 1940. Si on ne dit pas ça aujourd'hui, on peut considérer Le Dictateur comme un film commun. En France, on a fait des films sur la Seconde Guerre mondiale, 20 ans après, 30 ans après, La Grande Vadrouille, La Septième Compagnie, bon, des films comiques. Chaplin fait ça à un moment où Hitler est au pouvoir, à un moment où Mussolini est au pouvoir. Et donc, ce film est un film à la fois de divertissement, mais aussi de propagande, où il y a une opposition entre le petit barbier juif qui est Charlot classique et Hitler. Voilà. Et donc, on a ce petit barbier juif qui se fait poursuivre, mettre en prison, etc. etc. et le dictateur qui domine avec quelques scènes cocasses. Une scène cocasse, c'est la rencontre de Hitler-Mussolini, hein, même si les noms sont changés. Ils doivent descendre du train, il y a un tapis rouge, et le train avance, recule, il n'arrive pas à trouver l'endroit où se positionner. Donc, le moment est amusant. Et on peut dire que, sur le fond, c'est quand même assez violent idéologiquement, dans la mesure où le petit barbier juif arrive devant son magasin et a marqué « juif » dessus. Il va se réfugier à la maison à côté. Il y aura des scènes où les troupes vont venir l'agresser, etc. Jusqu'à ce qu'un de ses amis qui avait combattu pendant la Première Guerre arrive et atténue son sort. Pour les scènes mythiques, on ne peut pas échapper à la Map Monde. C'est une scène qu'on peut revoir 100 fois et c'est extraordinaire. Il est là, le dictateur, Hitler, devant son bureau, il a un espèce de gros ballon qui symbolise le monde. Alors il le pousse, il le repousse, il le jette même avec ses fesses depuis le bureau. Et à un moment donné, il s'approche, il le serre, il le serre, il le serre, et puis paf, ça explose dans ses mains. Et c'est vrai que c'est une scène symbolique qui a une charge très très forte, comme l'ensemble du dictateur. Et le dictateur, donc, à la fin, il va y avoir une substitution. Le dictateur va devenir le barbier juif, et le petit barbier juif devient le dictateur. Et il fait un discours extraordinaire. Alors certains trouvent que c'est un petit peu lourd, mais bon, l'idéologie, parfois, c'est lourd, hein, surtout en 1940. Il fait un discours sur la paix, sur l'amitié entre les peuples, etc., qui remet en cause toutes les guerres et qui fait donc que tout ça va s'arrêter grâce à lui qui a pris la place du dictateur. Voilà. Donc, vraiment, ce film, encore une fois, 1940, il a financé lui-même parce qu'il avait ses fonds propres. Personne ne l'aurait financé. Et bien sûr, aux États-Unis, qui sont un peuple très démocratique, il a été rejeté dans la mesure où il était, c'est un communiste. Chaplin est un communiste. Regardez ce qu'il a fait. Et ça, ça va le poursuivre en permanence jusqu'au point qu'en 1952, il se verra refuser le visa d'entrée sur les États-Unis et il va partir ailleurs. C'est pas lui qui a voulu partir en Suisse, comme certains, pour des raisons fiscales. Non, il y est allé pour des raisons idéologiques parce qu'il s'était fait jeter, tout simplement. On peut pas dire autrement. Hein. Et depuis sa résidence, il aura parfois des critiques sur les États-Unis. Il fera même un film que je ne développe pas, qui s'appelle Un roi à New York, où il montre comment, idéologiquement, les États-Unis sont absolument à repousser. Hein. Je veux dire, il n'y a pas d'autre terme qui peut être repris. Alors, entre les différents films, puisque je vais évoquer un dernier film tout à l'heure, il y a Les Lumières de la Ville, Limelight, où il y a une musique qui est vraiment aussi extraordinaire. Et je précise que Chaplin faisait sa musique, il faisait sa musique. Je vous en cite deux autres, vous ne le savez pas forcément. Clint Eastwood, John Carpenter font souvent leur musique. Alors, ce sont des films que vous connaissiez de Chaplin. Peut-être vous ne connaissez pas Monsieur Verdoux. Monsieur Verdoux, c'est une œuvre mi-sérieuse, mi-amusée de Chaplin. En fait, Monsieur Verdoux, c'est Landru. Et Charlie Chaplin joue Landru. Et c'est la première fois qu'il change d'apparence, c'est-à-dire il a son apparence qui est ses cheveux blancs et son visage. Puisque quand on voit Chaplin, même des photos de Chaplin en 1920, au naturel, on a du mal à le reconnaître parce que Charlot est différent de Charlie Chaplin. Donc là, il fait une sorte de petit monsieur qui a l'air gentil, qui s'occupe de ses roses au début, etc. et qui tue. Alors, il séduit des femmes et il les tue en prenant leur argent. Et donc, on le voit opérer cette séduction avec toujours ce côté amusé, sautillant, hein, qui est assez particulier. Chabrol fera un Landu en 1963, mais ce sera très différent avec Charles Denner qui fait le rôle principal. Donc là, Chaplin, c'est un film qui me touche aussi beaucoup parce qu'il y a un discours à la fin. C'est comme Le Dictateur. Alors, quel est le discours de M. Verdou ? Il est condamné à mort, bien sûr, c'est normal, c'est Landru. Bon. Et on a vu les incinérateurs qui fumaient, etc., les voisins qui disaient « Ah, mais ça fume, là, etc. » C'est un homme plus ironique. Il est condamné, il prend la parole, il dit « Voilà, moi, j'ai tué des personnes. Mais vous, qu'est-ce que vous avez fait, les États ? Vous avez tué des centaines de milliers, des millions de personnes. Donc, moi, je ne suis rien. C'est vous qui êtes les personnes horribles dans ce monde. C'est vous qui avez tué, c'est vous qui avez fait des guerres. Et moi, j'ai été un petit joueur, finalement, avec ce que j'ai fait. » Et ensuite, on le voit, c'est la dernière scène, partir vers la guillotine. Donc, ce qui est intéressant, c'est un discours complémentaire par rapport au dictateur. Il met en place cette idée de critique des États, ces États qui font les guerres, qui sont nationalistes, etc., etc., hein, puisque M. Verdoux est tourné après la Seconde Guerre mondiale. Donc, un film, je dirais, un petit peu rare, mais qui vaut le coup d'être vu, parce qu'il est vraiment original. Alors après, c'est vrai que les œuvres sont moins intéressantes. Il y a Un roi à New York, où il montre un roi qui va quitter son pays et qui va venir à New York, au départ avec des lueurs dans les yeux, en disant « Ah, ça va être extraordinaire !» Et puis petit à petit, il va déchanter, et il va dire « Mais qu'est-ce que c'est que le pays ? Qu'est-ce que c'est que ce pays ? Qu'est-ce que c'est que les États-Unis ?» Voilà. Et quand il fait ce film, c'est une manière de se venger de ces Américains qui l'ont traité de communiste, qui l'ont rejeté, qui l'ont écarté. Donc, Un roi à New York, je dirais, c'est très intéressant. Par contre, le dernier film de Chaplin, il s'appelle La Comtesse d'Hong Kong, est avec Marlon Brando, qui est un acteur que j'adore. Mais là, vraiment, c'est pas terrible. Et donc, voilà, il conclut sa carrière avec des films un peu plus moyens, mais c'est le cas de tout créateur, que ce soit un écrivain, un réalisateur. Petit à petit, des fois, il peut se répéter. Moi, j'adore quelqu'un comme Jacques Tati, et petit à petit, les films sont moins passionnants au fil du temps. Mais on pourrait dire ça pour d'autres réalisateurs. Alors, bouclons la boucle et faisons un petit tour, revenons sur le muet, parce qu'on peut quand même ajouter un certain nombre de choses. Donc, comment ce personnage ? Quand Chaplin arrive à la Keystone, donc en 1913, il a 25 ans. Lui, est responsable, dit, oh, il est un peu jeune, etc., qu'est-ce qu'on va en faire ? Et lui, à un moment donné, a une idée, il dit, je vais trouver des éléments contraires. Donc, je vais mettre une veste étriquée, un pantalon trop large, un chapeau trop petit et des chaussures trop grandes. Et à partir de là, je vais essayer de créer mon personnage. Et ce personnage, je dirais, il n'arrive pas tout seul au départ à la perfection du Charlot. Il y a des films où il n'est pas sympa. Il n'est pas le Charlot ouvert, social, etc. Il va un peu battre les autres, mais plus méchamment que dans les films postérieurs. Puisque dans les films postérieurs, quand il tape les fesses de quelqu'un, Charlot Policeman, ça va être un gros méchant. Et d'ailleurs, vous avez le gros méchant qui revient pendant des années dans ces films et qui est l'ennemi classique. Hein, comme vous avez, je ne sais pas, chez John Ford, vous avez John Wayne qui va se casser la figure à Victor McGuigan, qui fait les sergents irlandais chaque fois et qui est dans L'Homme tranquille, il y a une bagarre qui est assez impressionnante. Donc, pour Chaplin, c'est la recherche d'un costume. Et petit à petit, en 2-3 ans, il construit le personnage. Et à travers ces quatre sociétés avec lesquelles il va passer des contrats, il arrive à ce Charlot qui va, pendant 20 minutes, nous éblouir et éblouir le monde entier. Parce que c'est ça. Pourquoi il aime le muet et pas le parlant ? Parce que le muet est universel. Le parlant ne l'est plus. Avec le parlant, on n'est pas compris par tous. Tandis que lui, partout dans le monde, il est compris. Et il est admiré, à juste raison, et il devient vraiment extrêmement célèbre. Alors, il a, j'allais dire, comme tout créateur, il a mis dans ses films, j'allais dire, ses femmes successives, et notamment dans les temps modernes, il y a vraiment avec Paulette Goulard, on sent qu'il y a une alchimie qui est absolument extraordinaire. Et il va avoir, alors là, aujourd'hui, encore, il serait politiquement pas tout à fait correct, il aurait une tendance à aimer bien les jeunes filles, jeunes filles. Et donc, parfois, c'est 16 ans. Donc, il a eu parfois des petites critiques, il est allé devant une juridiction, il a été relaxé, etc. Mais ça a effectivement soulevé des petits problèmes. Alors, communiste, et en plus, voilà, au niveau sexuel, c'est pas terrible. Donc, cela c'est réglé, je dirais, sans problème à l'arrivée. Et au fil du temps, même quand il va se marier avec, je dirais, la bonne, la dernière, qui est O'Neill, c'est-à-dire la fille du dramaturge Eugène O'Neill, il va ensuite s'installer en Suisse, il aura un certain nombre d'enfants. Alors, pour les films muets, aussi, il y en a un qui est assez extraordinaire et unique, ça s'appelle Les Migrants. Et les migrants, on voit arriver sur un bateau, les migrants donc, avec un certain nombre de personnes, et il va débarquer à New York, la Statue de la Liberté, magnifique, il débarque. Les seuls qui ont fait ça aussi bien, c'est Coppola dans Le Parrain 2. Le Parrain 2, on voit arriver le jeune futur parrain, et il a un nom, il donne son nom, mais le type à l'étiquette, il dit « Ah ouais, Corleone bon, », alors qu'en fait, c'est le village de Corleone, et on lui donne le nom de Corleone. Et il y a aussi l'immigrant avec Marion Cotillard, où on voit aussi cette arrivée, elle a une sœur qui est malade, etc. Donc, Les Migrants, c'est vraiment un film qui est très, très fort, parce que c'est un film qui, je dirais, pour la première fois, montre ce que c'est que les États-Unis. Et qui l'a fait en lui ? Personne. Ce sale communiste-là de Chaplin, il le fait, il ose le faire, et les autres ne l'ont pas fait. Effectivement, par la suite, il va maintenir la dimension sociale, et on aura ça avec Une vie de chien. Alors, on passe dans les années 1910 à Deux bobines, 20 minutes, à peu près une quarantaine de minutes. Donc, on a des films, je dirais, qui sont moyen-métrage aujourd'hui, mais qui sont des longs-métrages, et qui sont tournés vers le social. Bien sûr, le kid, ce rapport entre le vagabond et ce garçon qu'on voit ensuite lui rendre service en cassant les vitres pour que lui puisse aller les changer. Donc, le kid, c'est vrai que c'est une merveille, l'essai de détachement, les services sociaux qui veulent l'empêcher, etc. Et cette dimension d'émotion, de social, c'est quelque chose qui le touche beaucoup. Et ça le touche, pourquoi ? Parce qu'effectivement, il l'a vécu, et comme beaucoup de gens qui l'ont vécu, ça l'a marqué, sauf que d'autres l'ont abandonné, l'ont rejeté, et lui est resté marqué à vie par cette question de la misère, de l'aide sociale, du rejet des uns des autres. Et vraiment, c'est quelque chose qui est marquant dans l'œuvre de Chaplin. Donc, vous avez là aussi quelques scènes célèbres où on emmène le kid et lui le poursuit pour essayer de le rattraper. Donc, film social qui est là aussi important. Alors, il y a Les Lumières de la Ville, qui est plus proche du mélodrame avec du comique, qui est avec cette jeune aveugle dont il tombe amoureux, il va lui payer son opération. Et ensuite, c'est un vagabond. Elle croyait qu'il était riche. Il y a une scène qu'il a travaillée énormément. C'est une scène où l'aveugle est sur le bord du trottoir. Il y a une voiture qui s'arrête, milliardaire. Et puis Chaplin passe à travers, il rentre d'un côté, il sort de l'autre. Et cette scène, il l'a faite 20 fois, 30 fois, 40 fois. Quand on la voit, c'est simple. Effectivement, l'aveugle croit qu'il est milliardaire parce qu'il a passé la porte, etc. Mais si on calcule, le génie, là aussi, il arrive à donner un élément qui est extrêmement difficile à donner et qui conditionne tout le film. Et à la fin, effectivement, il va s'approcher de la fleuriste et à ce moment-là, elle va le reconnaître. C'est la dernière scène qui est où il y a d'ailleurs, là aussi, c'est un réalisateur qui s'appelle Robert Parrish, fait un enfant qui est à l'angle de la rue. Et ce Robert Parrish sera assistant de John Ford et tournera 4 ou 5 films. Donc, on a la prise en compte de l'enfance qui est difficile, c'est ce qu'il a vécu. On a le rejet social, ce qu'il a vécu. Et on a aussi la défense d'une idéologie ouverte, fraternelle, etc. Et, encore une fois, c'est ce qui le polluera au niveau des Américains, communistes, en plus, accusation de juif, parce qu'il a joué des juifs, donc il doit être juif. Donc, t'es un juif communiste ? Non, on ne veut pas te voir. Voilà. On arrive à un moment où Chaplin atteint le sommet, et le sommet, c'est ça. Le sommet, c'est les temps modernes, les lumières de la ville et le dictateur. Ça, c'est parfait. Et si j'ai cité M. Vernoux, c'est parce que c'est un film moins connu, mais qui me paraît absolument essentiel pour avoir l'œuvre de Chaplin. Donc, on a, si l'on peut dire, un génie du cinéma. Parce qu'il a su faire du muet, il s'est adapté aussi au parlant, hein, puisque M. Vernoux le rend très bien, un roi à New York aussi. Et quand je faisais l'opposition en France, où la même question a été posée, c'est tout simplement parce que l'opposition Pagnol et René Clair, c'était Pagnol, il avait tourné des pièces de théâtre. Il disait vivement qu'on ait un film, parce qu'au moins je pourrais donner l'image de Rému, qui a été mon acteur préféré. Et effectivement, Rému marque le cinéma de Pagnol. Et René Clair, au contraire, dit « Mais regardez, moi j'ai bougé la caméra, il a fait plein de films, René Clair, qui sont de poursuite, un chapeau de paille d'Italie ou d'autres, ils sont toujours en train de se poursuivre. » Et cette poursuite de René Clair, on a parfois comparé avec Chaplin, parce que René Clair a aussi ce sentiment de cinéma un petit peu volant, d'utilisation du mouvement, etc. etc. Et donc, il y a cette peur du blocage. Et le blocage va durer 4-5 ans. Vous avez des films à l'époque du muet, notamment L'Argent de Marcel Lherbier, d'après Zola, où, à un moment donné, ça se passe à la Bourse, et il met la caméra sous la coupole, et il la fait descendre. Donc, ce sont des mouvements qui traduisent les bouleversements de cette institution, et c'est fait de manière absolument remarquable. Et alors, on dit, mais non, on ne pourrait pas le refaire aujourd'hui. Hein. Et quand je disais que ça allait toucher les Américains avaient fait des poursuites extrêmement importantes. On peut préciser que Chaplin avait créé une société à part qui était la United Artists, les artistes associés. À l'époque, il y avait ce qu'on appelle les major companies, hein, du genre Columbia, MGM, etc. etc. Et chacun était soumis à ces studios. Pendant 30 ou 40 ans, c'était une soumission aux studios. Et Chaplin, lui, a réussi à échapper à cette soumission. Et il a pu donc faire exactement ce qu'il voulait. Donc là, la manière dont il a déployé son œuvre, c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui est unique. Alors après, on peut dire qu'il y a d'autres metteurs en scène qui sont absolument extraordinaires. On peut dire qu'il y a, par exemple, John Ford qui est absolument extraordinaire. Vous avez Howard Hawks au niveau des cinéastes américains. Et après, bien sûr, des talents comme Scorsese, Coppola, Tarantino, Michael Cimino, etc. Mais l'important pour un réalisateur, c'est d'avoir son budget, d'avoir sa propre compagnie. Et avec la unité d'artistes, il pouvait être distribué. C'était quatre acteurs, lui, Pickford et Fairbanks. Alors, il faut savoir que Douglas Fairbanks, c'est celui qui a tout inventé, le pirate, Zorro, Robin des Bois, etc. Il a fait tout ça en muet avant que d'autres le refassent. Marie Pickford, c'était la petite fiancée d'Amérique, donc c'était les films avec les enfants, etc. qui étaient. Et quand on avait Griffith, je l'ai cité tout à l'heure, Griffith, c'était. On considérait que c'était lui qui avait inventé le cinéma, parce qu'il a fait énormément de films. Et il avait attaqué, comme je le souligne, le long métrage, ce qui était un petit peu unique. Donc, à côté des compagnies qui imposaient leurs normes, eux ont voulu créer une compagnie qui n'imposait pas de normes et qui leur permettait de faire ce qu'ils voulaient. Donc, toujours Chaplin, autonomie. Et ça, c'est un mot qui marque toute l'œuvre de Chaplin. Chaplin, c'est unique parce qu'il a pu créer, en mettant son argent, non pas au service de la simple distraction, mais au service de la réflexion, au service du lien social, au service de la critique américaine. Donc, on a effectivement avec lui une personnalité unique qui va vraiment marquer le cinéma. C'était Cinéma Cinéma par Jacques Viguier. Merci à Yanis Boudin à la réalisation. Et à très bientôt pour un prochain épisode de Cinéma Cinéma.